que j'ai le plaisir et l'honneur, en tant que président de l'association André Léo, qui organise cette rencontre avec l'Espace Mendès France, qui, une nouvelle fois, se révèle très hospitalier, très, très accueillant. Et donc, d'accueillir Michel Audin, qui était professeur de mathématiques à l'Université de Strasbourg, qui est donc une mathématicienne importante pour les mathématiques françaises et internationales, par le fait, et qui également est parallèlement très intéressée par les événements historiques de et autour de la Commune de Paris. Et c'est à la faveur de cet intérêt qu'elle s'est rendue compte, elle a découvert que André Léo, qu'on ne présente plus, j'espère, qui était militante de l'Association internationale des travailleurs, féministe, républicaine, romancière et communarde, donc. À la faveur de cet intérêt, elle a découvert que André Léo avait croisé la vie d'une très grande mathématicienne aussi de la fin du 19e et qui s'appelait Sofia Kovalevskaya. Et donc, qui a fait l'objet des travaux de recherche, à la fois mathématiques et historiques, de Michel Audin, ici présente, et à qui je vais sans plus tarder donner le micro pour qu'elle approfondisse cette rencontre. Et puis, voilà. Merci.
Merci à vous tous d'être là. Merci à l'association André Léo pour m'avoir invité, à mes collègues mathématiciens pour m'avoir invité aussi, et puis à l'Espace Mendès France pour m'accueillir. Bref, je crois que j'ai oublié personne. Voilà, donc je vais commencer. Donc Sofia Kovalevskaya, je vais vous parler de Sofia Kovalevskaya. J'en ai déjà parlé à l'université cet après-midi. Vous n'étiez pas tous là, donc je ne vais pas dire la même chose. Et je ne vais pas supposer que vous savez ce que j'ai raconté cet après-midi. Donc là, je vais vous parler de Sofia Kovalevskaya à Paris pendant la Commune. Donc Sofia Kovalevskaya, pour ceux d'entre vous qui par hasard ne la connaîtraient pas, ah oui, alors si je passe devant, ça va pas, hein? Okay. Pour ceux d'entre vous qui par hasard ne la connaîtraient pas, c'est une mathématicienne qui, comme son nom le suggère, était russe. Elle est née en 1850 à Moscou et elle est morte en 1891 à Stockholm. Donc comme vous voyez, elle a eu une vie assez courte et en effet, elle est morte d'une maladie de poumon. Ce qui en fait ce que j'appelle une authentique héroïne du 19e siècle. Alors, je vais vous raconter deux, trois choses sur elle. Donc, elle a une vie assez intéressante. D'abord, elle a appartenu à un groupe d'étudiants nihilistes en Russie, donc quand elle était très jeune. Donc, c'était des gens qui avaient des idées assez intéressantes sur la. Comment il fallait, enfin sur l'éducation en particulier, comment il fallait développer l'éducation du peuple. Il faut imaginer ce qu'était la Russie dans les années 1860. L'histoire d'éduquer le peuple n'était pas une affaire très mince. Et en particulier, ils avaient une idée que je trouve assez intéressante et qui est peut-être encore valable aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus important d'éduquer les filles que d'éduquer les garçons, parce que une femme, elle va son éducation, elle va la faire passer à ses enfants, alors qu'un homme ne le fera pas. Je schématise, hein, mais bon, c'est une chose du 19e siècle. Et donc, en particulier, ces gens-là, ces nihilistes-là, ils étaient assez favorables à l'éducation des jeunes filles, ce qui n'était pas complètement évident en Russie à cette époque. Alors, du coup, elle a voulu aller faire des études à l'étranger. Et pour aller faire ses études à l'étranger, faut savoir qu'une jeune fille, ça ne se baladait pas tout seul comme ça à l'étranger. Ça partait avec son père, ou enfin, il fallait un homme en tout cas. Hein. Comme son père n'allait pas aller avec elle, elle a décidé de se marier. Donc, elle a cherché dans son groupe nihiliste un jeune homme qui voulait bien se marier avec elle, faire un mariage blanc pour lui servir de passeport et pour qu'elle puisse aller faire ses études en Allemagne où elle voulait aller. Et de façon assez étonnante, ces jeunes filles, en général, arrivaient à trouver un garçon qui accepte de faire ça. Et donc, elle a trouvé ce garçon. l'a épousée en 1868. Et donc, elle est partie faire des études en Allemagne. Elle a été d'abord à Heidelberg et ensuite à Berlin, entre 1869 et 1874. En particulier, elle était à Berlin en 1870. Je parle de la guerre franco-prussienne de 1870, donc Berlin, capitale de la Prusse. Elle était là au moment où la guerre a été déclenchée. Elle a passé un doctorat en mathématiques en 1874. Après, elle a eu une fille avec son mari, ce qui fait que le mariage était plus si blanc que ça, apparemment. Enfin, en tout cas, elle a eu une fille. Ils ont eu une fille. Et puis, son mari s'est suicidé en 1883 pour des raisons, bon, on pourra en discuter après, mais c'est pas la chose la plus intéressante de cette histoire. Et quand elle est devenue veuve, tout d'un coup, les gens ont pensé que c'était maintenant une personne majeure, qu'elle avait besoin d'un emploi. Et donc, à ce moment-là, sa vie professionnelle a changé parce que on lui a trouvé un poste de professeur à l'université de Stockholm. Donc, vous voyez, son statut marital a joué quand même un rôle important dans toute sa carrière. Quoi ? C'était quoi une méchanceté, là ? Ouais, bon, prof, comme vous voulez. C'est pas le plus important. Elle a eu un prix de l'Académie des sciences en 1888. L'Académie des sciences de Paris, je veux dire. Et elle est morte à 41 ans d'une pleurésie. Donc ça, j'avais déjà dit qu'elle était morte d'une maladie de poumon. Voilà, donc ça, c'est un résumé de la vie de Sofia Kovalevskaya. Donc si ce qui vous intéressait, c'était la vie de Sofia Kovalevskaya dans son ensemble, c'est fini. Bon, on va maintenant on va rentrer dans les détails. Donc elle a écrit plusieurs textes littéraires. En plus d'être mathématicienne, elle a écrit des romans. Donc en particulier un roman qui s'appelle Une nihiliste, dont vous pouvez imaginer qu'il est partiellement autobiographique. J'ai montré la couverture de ce livre pour dire qu'il est disponible en français, donc vous pouvez le lire si vous voulez. Et puis elle a écrit aussi des souvenirs d'enfance qui ont été publiés à la fois en russe. Parce que c'était son pays, la Russie, et en suédois, parce que c'est en Suède qu'elle vivait, en 1889, donc peu de temps avant sa mort, et qui viennent d'être réédités. Alors ça, c'est tout nouveau, le livre, il est sorti de l'imprimerie hier, et on l'a eu aujourd'hui, qui vient d'être réédité sous cette forme. C'est quelque chose qui a été publié en français en 1895, et qui n'avait pas été... Enfin, ça a été republié depuis, mais sans, comment dire, appareil critique. Comme ça qu'on dit. Voilà, donc là, on a fait quelque chose. Et alors, en fait, ses souvenirs d'enfance, ça raconte son enfance. Donc ça s'arrête quand elle a 13 ans et qu'elle est amoureuse de Dostoïevski. Et donc, elle avait l'intention d'écrire la suite, mais elle ne l'a pas fait, puisqu'elle est morte assez vite. Et son amie Anne-Charlotte Leffler a décidé d'écrire la suite et elle a complété ses souvenirs d'enfance par une biographie de Sofia Kovalevskaya. Et donc, comme vous avez sans doute vu là, oui, comme vous avez sans doute vu, donc les deux textes sont publiés ensemble. Et donc, il y a les souvenirs d'enfance de Sophie Kovalevski, comme on l'appelait à l'époque en France, et suivi par une biographie par Madame Charlotte Leffler. Donc, c'est la tradition de publier ces deux textes ensemble. Donc, pour cette édition, on s'est conformé à cette tradition. Malgré tout le mal que je pense de la biographie d'Anne-Charlotte Leffler et que je vais vous expliquer maintenant. Voilà, donc Anne-Charlotte Leffler, c'était une écrivaine suédoise que vous voyez sur cette photographie. Elle était la sœur de Gustav Mittag Leffler, qui était un mathématicien suédois, qui a joué un rôle important dans la vie sociale des mathématiques. En particulier, c'est à lui qu'on doit l'existence des congrès internationaux des mathématiciens qui ont lieu tous les 4 ans depuis 1897. Voilà. Donc, et bien sûr, parmi ces... Donc, il a d'autres faits de gloire... Et dont l'un était justement d'avoir eu l'idée de faire venir Sofia Kovalevskaya à Stockholm sur un poste de professeur. C'est grâce à lui que c'est arrivé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que, puisqu'on a dit qu'on allait parler de la Commune de Paris, je vais vous raconter ce que dit Anne-Charlotte à propos de ce qu'a fait Sophia à Paris pendant la Commune. Je ne vais pas vous raconter, mais je vais même vous le lire assez en détail. Donc maintenant, on va faire la lecture. Alors, en fait, j'avais ce texte sur un papier, ce sera plus agréable. Donc, elle est à Berlin en 1870, à partir de l'automne 1870. En janvier 1871, là, je vous lis du Anne-Charlotte Leffler, hein. Sophie avait dû interrompre ses études, à peine commencées avec Weierstrass, pour entreprendre, en compagnie de son mari, un voyage aventureux. Aniuta, donc ça, c'est la sœur de Sophia Kovalevskaya, c'était vite lassé de la vie monotone de Heidelberg. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le mari, ça, c'était un passeport, mais le passeport, il valait pour deux filles. Donc, elles pouvaient partir. Il servait de chaperon aussi à la sœur. Donc, elles sont parties toutes les deux avec son mari. Elle s'était rendue à Paris. Donc, n'osant avouer toutefois qu'elle vivait seule à Paris, elle fit passer ses lettres pour la Russie par l'intermédiaire de Sonia, afin de les timbrer du même endroit. Donc, elle envoyait ses lettres à Sonia, et puis Sonia, elle envoyait les lettres à ses parents en Russie, et tout le monde croyait que les deux filles étaient ensemble à Heidelberg. L'intention d'Agnuta n'était pas de prolonger son séjour à Paris, mais des relations qu'elle y noua la dominèrent bientôt entièrement, et la vérité devint chaque jour plus difficile à dire. Attendez, c'est pas fini. Où je suis là ? Ouais. Elle avait fait la connaissance d'un jeune Français, donc les influences, les relations qui la dominèrent, c'était évidemment un homme. Elle avait fait la connaissance d'un jeune Français qui fut un des chefs de la Commune et pendant toute la durée du siège se trouva enfermé avec lui à Paris. Je continue à vous lire du Anne-Charlotte. Sophie, très tourmentée, comprenant d'ailleurs la responsabilité qui pesait sur elle-même, résolut de pénétrer avec son mari dans Paris, aussitôt après le siège, pour y retrouver sa sœur. Donc, elle est responsable parce que c'est elle qui fait passer les lettres, bien sûr. Lorsqu'elle me raconta plus tard ce voyage, elle avait peine à expliquer comment ils avaient pu parvenir à pénétrer dans la ville au travers des troupes allemandes. Errant à pied le long de la Seine, ils avaient trouvé un bateau abandonné près du bord et s'en était emparé. Mais à peine éloigné du rivage de quelques brassées, une sentinelle les aperçut et les héla. Au lieu de répondre, ils ramèrent de toutes leurs forces et, grâce à je ne sais quelle négligence de service, réussirent à échapper et à débarquer sur la rive opposée, d'où ils se glissèrent dans la ville sans attirer l'attention. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent à Paris au début de la Commune. Sophie avait l'intention, c'est toujours Anne-Charlotte, c'est bientôt fini, rassurez-vous, hein, de décrire ses impressions sur cette époque dans un roman. Et là, ça n'a pas eu le temps. Voilà, donc, ce qu'elle raconte, c'est que Sophie et Vladimir sont venus à Paris. On ne comprend pas trop bien si c'est pendant la Commune ou pendant le siège ou après le siège ou comment ils sont rentrés. Et puis, on comprend que Sophie lui a raconté des choses qu'elle n'a pas comprises et qu'elle-même n'a pas pu écrire, puisqu'elle est morte. Hein. Mais ce n'est pas tout. Donc, elle vient à Paris et elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas aider sa sœur. Quant à sa sœur, elle ne pouvait l'aider en rien. Les Kovalevski retournèrent donc à Berlin, où Sophie reprit le cours de ses études. C'est là que ça se corse, parce que la Commune est vaincue. Donc, et lorsque la Commune fut vaincue, Aniuta écrivit à sa sœur pour la supplier de revenir et d'intervenir auprès de leur père afin d'obtenir son pardon, une chose importante, mais surtout son secours, dans la situation désespérée où elle se trouvait. Elle avait pris le parti de ne pas nommer les gens qui étaient vivants. Et en fait, l'ami de Sophie, d'Aniuta, était encore vivant. Venait d'être arrêté et condamné à mort. Bon, là, on va bientôt arrêter le... on va bientôt arrêter le massacre là. Sa femme et lui partirent aussitôt pour Paris, donc ça c'est les deux parents hein, qui viennent de Russie, accompagnés de Sophie et de son mari. Je n'ai pu recueillir sur cette époque que quelques anecdotes. Le général s'adressa à Monsieur Thiers, lui-même, avec lequel il avait des relations, afin d'obtenir la liberté de son futur gendre. On va discuter tout ça après. Hein. Monsieur Thiers prétendit ne pouvoir remédier à la situation, mais dans le courant de la conversation, il raconta, comme par hasard, que les prisonniers, au nombre desquels se trouvait J, seraient transférés le lendemain dans un autre lieu de détention et qu'ils passeraient devant le palais de l'industrie. Bon, je vais vous passer la suite des détails. Bref, grâce à Thiers, le J en question se fait réussir à s'évader. Je passe ça et puis on va venir aux choses. Donc je reprends depuis le début parce que je comprends rien. Ok. Donc si ça vous ennuie pas, j'ai lu ce texte. Je sais pas combien de fois, mais vraiment pendant des années j'ai lu ce texte. Je sais pas combien de fois sans comprendre de quoi elle parlait. Si elle parle de la commune, si elle parle du siège, de quoi elle parle. Il y a des choses qui peut-être ne vous frappent pas, mais qui moi me frappent immédiatement, c'est que personne n'était condamné à mort juste après la commune. Soit les gens avaient été massacrés, soit les conseils de guerre commençaient au mois d'août plus tard. Donc tout ça était clairement pas bon. Voilà. Donc on reprend tout. Donc on est en janvier 1871. Hein, je vous rappelle, c'est le début ça. Voilà. Donc c'est janvier 1871 la date. Donc on note ça bien dans un coin de. Et puis, donc, on se rappelle qu'à Newtas, c'était lassé de la vie monotone de Heidelberg, mais ça, c'est pas vrai du tout. Déjà. Parce que, en fait, à Newtas, elle est jamais allée à Heidelberg. Donc, elle est allée directement à Paris. Et, en fait, elle est à Paris depuis 1869. Et elle a jamais vécu à Heidelberg, donc elle s'était pas lassée de la vie monotone de Heidelberg. Donc, ça, c'est une photographie de la sœur de Sophia. Voilà. Et puis je vais peut-être reprendre pour, si pas pour certains d'entre vous, c'est pas complètement clair, je vais reprendre la chronologie de cette période 1870-71. Hein. Donc la guerre franco-prussienne a commencé en juillet. Donc à ce moment-là, Sophie était à Berlin et Anna était à Paris. Anyuta était à Paris. Du 17 septembre jusqu'au 26 janvier, la ville de Paris est assiégée. Bon, je ne vais pas vous raconter le siège, mais vous imaginez. Vous avez tous entendu parler de ce siège. Voilà. Et puis, du 18 mars au 28 mai 1871, il y a eu ce qu'on appelait la Commune de Paris. Donc là, on a les dates, clairement. Voilà. Et donc, je reprends à la fin. Là, donc, Anyuta, elle avait fait la connaissance d'un jeune Français qui fit un des chefs de la Commune. Et pendant toute la durée du siège, se trouvant enfermée avec lui dans Paris, je vais vous dire qui était ce jeune homme. Donc, le jeune Français, c'était un dénommé Victor Jacquelard. Il est né en 1840 et il est mort en 1903, donc en 1870, il était en 69, il n'est pas si jeune que ça, c'était un jeune homme, mais bon, voilà. Il est étudiant en médecine, il a même été médecin plus tard, mais on lit beaucoup qu'il était professeur de mathématiques ici ou là, donc pour le bénéfice des mathématiciens qui sont dans la salle, je le signale. Bon, c'était un militant blanquiste, et il a eu beaucoup d'ennuis déjà pendant le Second Empire. Indépendamment de la commune. Voilà, et alors maintenant on va voir ce que fait Sophie pour retrouver sa sœur, pour venir voir sa sœur. Donc je vous rappelle que Anne-Charlotte nous a dit qu'elle venait à Paris aussitôt après le siège. Et puis après elle nous raconte une histoire abracadabrante avec un bateau à laquelle on ne comprend rien, et elle nous dit ils se retrouvèrent à Paris au début de la commune. Alors moi, je ne comprends pas si on est après le siège ou si on est au début de la commune. Le siège, ça s'arrête à la fin du mois de janvier. La commune, ça commence au milieu du mois de mars, donc je ne comprends rien. Alors je commence à lire des livres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez comprendre quelque chose, il faut lire des livres. Et alors j'ai fait appel à André Léo. Donc bon, je ne vais pas vous dire qui était André Léo. Et comment j'ai fait appel à André Léo? J'ai fait appel à André Léo via Edith Thomas, le journal La Sociale, et Jean-Pierre Bonnet, qui est dans la salle. Et je vais vous expliquer comment. Donc, moi, je lis un livre d'Edith Thomas qui s'appelle Les Pétroleuses, qui est un livre qui est paru dans les années 1960, qui est consacré aux femmes dans la commune de Paris, qui est un très, très beau livre que je vous conseille. Jean-Pierre, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas.
Il y a un chapitre sur André Léo.
Donc, il y a un chapitre sur André Léo dans le livre d'Edith Thomas. Mais c'est pas de ça que je vais parler, justement. Et donc, moi, je prends ce livre et je regarde l'index. Et dans l'index, je vois qu'il est question de Sofia Kovalevskaya. Et donc, je suis très contente. Alors, je vais voir les pages et je tombe là-dessus. Elle parle de les professeurs Sophie et Vladimir Kovalevsky. Vladimir, j'ai peut-être pas dit, mais c'est le mari. Qui avait réussi à la, c'est Anna Jacquelart, qui a, donc la sœur de Sophie, hein, qui avait réussi à la rejoindre pendant la Commune, c'est dans une phrase comme ça, puis il y a une petite note, 3, c'est la note 3, et puis il y a écrit en bas, il y a écrit la sociale 12 mai. Bon. Alors là, j'étais, je pense que Jean-Pierre s'en rappelle, j'étais super embêtée, et donc je ne connais pas ce journal. Je découvre que la sociale est un journal du soir qui est paru à Paris pendant la Commune entre le 30 mars et le 16 mai. Et quand André Léo est revenu à Paris, parce qu'elle n'y était pas, quand elle est revenue à Paris début avril, elle a collaboré à ce journal, comme tous les gens de l'association le savent, mais peut-être il y en a qui ne sont pas de l'association dans la salle, donc je le répète, je le dis. Voilà, et donc j'ai cherché désespérément ce journal, je ne l'ai pas trouvé, j'avais rien, mais c'est pas grave parce que Jean-Pierre, il avait dans son ordinateur quelque part des petits bouts de cet article qu'il a mis ensemble et puis ça a fait cet article en entier. Donc dans ce journal le 12 mai, bon après j'ai été le lire à la BNF, hein, donc j'ai contrôlé ce qu'il m'avait envoyé, c'était bon. Dans ce journal qui s'appelle La Sociale, il y avait le 12 mai un article où elle disait, c'est André Léo qui écrit l'article, elle dit « Deux Russes, monsieur et madame Kovalevsky, qui avaient une sœur à Paris, accoururent dès l'armistice, donc là on parle de la guerre, du siège et de la guerre, à Versailles et demandèrent un laissez-passer. Refusés de toutes parts, ils allèrent jusqu'à Monsieur de Bismarck. » Donc, là, si vous comprenez géographiquement, là, c'est occupé par les Prussiens à Versailles. Hein. Quand ils arrivent à Versailles, ils parlent aux Prussiens. Refusés de toutes parts, ils allèrent. Donc, ils veulent un laissez-passer pour rentrer dans Paris. Ils sont dans la zone prussienne, ils veulent rentrer dans Paris. Refusés de toutes parts, ils allèrent jusqu'à Monsieur de Bismarck, lequel répondit à leurs instances : Il m'est interdit de vous satisfaire, cela ne dépend pas de moi. J'ai engagé ma parole à Monsieur Jules Favre. Qui était, passez-moi l'expression, une belle crapule, de ne laisser pénétrer personne dans Paris sans une permission expresse de sa part. La personne qui tient ce fait de monsieur et madame Kovalevsky l'écrivit de province à un journal de Paris. Donc vous avez tous compris qu'il y a la personne qui tient ce fait de. C'est André Léo elle-même, bien sûr. D'autres correspondances arrivèrent à destination. Celle-ci ne parvint pas. En fait, donc elle parle d'autre chose. Elle parle des lettres entre la province et Paris. À ce moment-là. Hein. Et en même temps, elle nous donne quand même cette information-là. Bon, j'étais contente d'avoir ça, mais je n'étais pas complètement satisfaite. Et donc, la chronologie, c'est qu'elle était partie le 18 février, André Léo, que bien entendu, elle était la personne qui écrivait de province, et elle est revenue début avril. Et de ça, on pouvait déduire que Sophie et Vladimir étaient arrivés à Versailles après le 28 janvier, ça date de l'armistice, mais qu'ils étaient rentrés dans Paris avant le 18 février, puisqu'ils ont vu André Léo. Et qu'ils étaient rentrés dans Paris, certainement sans laisser passer. Bon, alors si cette histoire vous intéresse, je la continue. Je vois que ça vous... Et en fait, oui, ils sont bien revenus à Paris aussitôt après le siège, parce que le laissez-passer français, ils ne l'ont pas eu, mais le laissez-passer prussien, ils l'ont eu, le voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été délivré en janvier 1870 à Strasbourg. Donc ils sont arrivés en train de Berlin à Strasbourg. Là, ils sont tombés sur un monsieur prussien, un chef prussien qui leur a signé ce laissez-passer. Avec, qui a mis un beau cachet prussien, et c'est avec ça qu'ils sont allés à Versailles. Et là, il y a la date. Donc, tout va bien, on est content, tout est confirmé. Donc, ça a été distribué, délivré le 29 janvier, et c'est aux archives de la préfecture de police de Paris. Je vais sûrement le redire plusieurs fois, mais voyez ce qui se passe, c'est que il y a, passez-moi l'expression, ces salauds de flics qui viennent perquisitionner chez vous, ils saisissent vos papiers, ils les emportent, et puis vous êtes très très malheureux, et puis 150 ans après, il y a un historien qui trouve ça dans les archives de la préfecture de police, il est super content, et bon, c'était mon cas ce jour-là, donc voilà. Donc ce laissez-passer, donc on est très content, ils sont bienvenus à la fin du siège, tout va bien, donc c'est bon. Et donc, comme ils étaient là à la fin du siège, ben, ils étaient bien là au début de la Commune. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Voilà, bon, donc ça, je ne rentre pas dans trop de détails. Donc on était bien après le siège, bon ça j'ai déjà dit, et bien en fait c'est pas vrai. Donc ils sont revenus, ils sont arrivés après le siège, mais ils n'étaient pas à Paris au début de la Commune, parce que le 11 mars, je sais qu'ils étaient à Berlin. Donc que faire ? Voilà. Et en plus, Vladimir avait écrit exactement quand ils étaient à Paris, donc ils étaient à Paris entre le 5 avril et le 12 mai. Donc, oui. Donc ils sont venus fin janvier, ils sont repartis à Berlin, ils sont revenus, donc ils sont venus pour voir qu'est-ce qui se passait après le siège, comment ça allait, si elle allait bien. Ils étaient contents, ils sont rentrés, elle a recommencé à travailler, puis après, ils ont appris qu'il y avait la Commune à Paris, ils sont venus à Paris pour la Commune, pour voir là. Voilà, et donc ils ont raté le mariage d'Anna et Victor, parce que vous avez vu que Anna, on finit par l'appeler Anna Jacquelart, mais en fait, ils se sont mariés. Donc ils ont été mariés le 27 mars, à la mairie du 17e, par Benoît Malon, qui était maire adjoint au 17e, comme vous le savez tous. Jean-Pierre, il y a un commentaire ? Non ? Oui, il y a une question ? Non ? C'est bon ? Voilà, l'acte de mariage, c'est celui qui est barré, évidemment, c'est pas l'autre. Je vais vous le montrer mieux. Voilà, donc c'est Jacquelart et Krokovskoy. Parce que donc ils se sont mariés le 27 mars 1871. Ils ont été mariés. Donc lui-même, Jacquelart, il était adjoint au maire du 18e arrondissement, qui était Clémenceau, comme vous le savez sans doute, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis. Voilà, ils se sont mariés. Et le 27 mars, ça veut dire que les bans avaient été publiés 15 jours avant, et donc ce mariage était prévu bien avant la Commune. D'autre part, Benoît Malon était adjoint au maire du 17e arrondissement avant la Commune. Il était très légalement adjoint au maire du 17e arrondissement. Il avait tout à fait les titres pour célébrer ce mariage. Mais malgré tout, ce mariage a été, comme vous le voyez, annulé. La page est barrée. Parce qu'entre-temps, il y avait eu le 26 mars, la veille, il y avait eu les élections à la Commune, et il avait été élu aussi à la Commune dans cet arrondissement, dont il était de toute façon maire adjoint. Bon. Bref, il les a mariés. Ils ont tous signé. Alors, parmi les témoins, il y avait Clémenceau, il y avait des tas d'autres gens, que je vais vous montrer sur la photo d'après. Voilà, ils étaient tous là. Il y avait Anna, il y avait Victor, il y avait Benoît Malon, il y avait un dénommé Villeneuve, il y avait un Lafond dont je n'ai pas la photo, il y avait Clémenceau qui était quand même assez mignon quand il était petit, quand il était jeune. Mais par contre, il n'y avait ni Sophie, ni André Léo. Parce que Sophie, elle était à Berlin, André Léo, elle devait être par ici. Et de toute façon, on ne les aurait pas vus parce que les femmes ne signent pas les actes. Donc voilà, elles n'étaient pas là. Donc voilà. Donc bon, je ne vais pas vous parler pendant une heure de ce mariage. Malgré tout, il a quand même été annulé. Et ça veut dire qu'il y a un adjoint au maire après la Commune qui a pris un stylo et qui a écrit dans les marges de tous les actes d'état civil qui avaient été passés pendant la Commune que cet acte était déclaré nul. Donc il faut imaginer l'adjoint au maire qui emporte les registres à la maison puis qui recopie 2000 fois la phrase comme ça. Bon, c'est... Voilà. Donc ils sont revenus je pense que tout le monde est convaincu qu'ils sont revenus au mois d'avril. Elle a travaillé dans une ambulance parce qu'au mois d'avril, il y avait déjà beaucoup de blessés de la Commune à soigner. Lui, il s'est intéressé aux collections de fossiles du muséum. En fait, c'était un biologiste, je ne l'ai pas dit. Il s'est intéressé surtout à la paléontologie. Il a été le traducteur en russe de Darwin, donc c'était pas n'importe qui. Ils sont repartis vers le 12 mai, comme il a dit. Ils étaient contents, ils étaient tranquilles, c'était bien, ça se passait bien. Le cœur du monde battait à Paris. Ils sont rentrés. Paris était un vrai paradis, ils sont rentrés. Mais c'est pas tout à fait fini. Je fais une minute de publicité. Je voulais dire que ils apparaissent tous dans ce livre, qui est un roman que j'ai écrit, mais malheureusement, la librairie a pas très bien fait son travail parce qu'il y en avait pas assez, donc vous ne pourrez pas vous l'acheter aujourd'hui parce qu'il y en avait très peu, ils ont tous été achetés. Donc, c'est ce livre-là, que je vous conseille. C'est un roman dont des témoins, peuvent dire que c'est un bon roman. Donc je vous conseille la lecture de ce livre où ces personnages apparaissent comme des personnages secondaires. La minute de publicité est terminée. Voilà. Donc, je reviens à la fin de l'histoire de. Donc, à la fin de l'histoire, ce qui se passe après la Commune, quand Jacques Lard est. Donc, le J, vous avez, tout le monde a compris que c'était Jacques Lard. Donc, quand Jacques Lard est arrêté. Donc, j'ai expliqué déjà que personne n'avait été condamné à mort au moment où il était arrêté. C'est pas vrai. Voilà. Et donc, Jacques Lard a été arrêté au mois de juin. Les conseils de guerre ont commencé en mois d'août. Et donc, il n'était pas condamné à mort. Mais il était prisonnier, c'est vrai. Et donc, là, comme je l'ai dit, la police avait perquisitionné chez lui. Quand je dis la police, je suis peut-être un peu... J'exagère peut-être un peu, parce que je vous rappelle que pendant la Semaine sanglante et après, c'est l'armée qui jouait le rôle, qui avait les pouvoirs de police. Hein. Mais bon, finalement, c'est arrivé dans les papiers de la préfecture de police, donc c'est peut-être la police quand même. Voilà, donc on a vu des tas de papiers. On a vu des papiers, ok. Alors, bizarrement, ces papiers n'ont pas été utilisés jusqu'à maintenant par les historiens, je veux dire, dans les biographies de Sofia Kovalevskaya, pour des raisons assez bêtes. C'est que les biographes de Sofia Kovalevskaya, c'était une mathématicienne soviétique qui s'appelait Pelagia Kochina et qui vivait dans les années 50-60, 70 peut-être. Donc il était assez peu probable qu'elle ait un visa pour venir à Paris, surtout pour regarder les archives, et qu'elle ait le droit de regarder les archives de la préfecture de police. Et puis une féministe américaine qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Ann Ibner Koblitz. Et elle, une américaine, il y avait peu de chances qu'elle pense qu'il y avait des choses intéressantes à apprendre sur la Commune de Paris dans des archives françaises. Donc, bon, c'est peut-être pour ça qu'on ne connaît pas encore cette histoire. Donc, je ne vais pas vous raconter l'arrestation de Jacques Lard, ni comment il s'est évadé, mais je vais vous raconter ça. Donc, en effet, ils sont revenus au mois de juin ils sont revenus avec leurs parents, enfin avec les parents des filles, au mois de juin, pour essayer de s'occuper de régler l'histoire de Jacques Lard, qui était emprisonné. Ils sont restés jusqu'à ce que Jacques Lard s'évade. Il s'est évadé le 1er octobre, et pas du tout grâce à l'aide de tiers, c'est une histoire complètement délirante. On sait exactement comment il s'est évadé, je ne vais pas vous le raconter, parce que c'est un peu hors sujet. Mais par contre... il est parti en Suisse avec le passeport de Vladimir. Donc ce Vladimir, le mari de Sophie, il est arrivé dans la famille comme passeport. En fait, c'était un passeport pour qu'elle puisse aller faire des études. Et là, il sert à nouveau comme passeport. Enfin, c'est son passeport qui sert. Ils sont restés à Paris jusqu'à ce que Jacques Lard s'évade, jusqu'à ce qu'il ait gagné la Suisse avec le passeport de Vladimir, et jusqu'à ce que le passeport revienne, parce que Vladimir, lui, son passeport, il en avait besoin pour repartir. Donc, jusqu'à ce que le passeport soit revenu. Et alors là, de cette histoire-là, il y a une vraiment très belle trace dans les archives de la préfecture de police. Alors, vous imaginez ce service super sérieux où on regarde des papiers très sérieux et où il y a, malgré tout, les archivistes qui sont là et qui surveillent que vous abîmez pas trop et que vous ne faites pas de dégâts. C'est quand même des policiers. Hein. Donc, c'est quand même une atmosphère assez... sérieuse, et je vais vous dire, raconter une petite note comique que j'ai trouvée un jour. J'ai vraiment piqué une crise de fou rire dans cette assemblée. Alors, il faut que je vous dise ça. Alors, il y a un rapport de police daté du 31 août qui dit... Vous écoutez bien, hein ? Alors là, vous écoutez bien, parce que là, c'est sérieux, hein, on rigole bien. Mademoiselle Krukovskoye est la fille d'un lieutenant général russe. C'est le flic qui écrit. Hein. Soit que depuis le mariage se soit effectué, soit que M. Krukovskoy ait voulu mettre son amour de père à couvert, il s'est fait annoncer récemment à M. le gouverneur de Paris, auquel il demandait une audience, comme le beau-père de Jacques Lard. Évidemment, les flics, eux, ils ne vont pas regarder les registres de l'état civil, donc ils n'avaient pas compris qu'ils étaient vraiment mariés. Et alors, un autre rapport de police nous dit, alors c'est celui-là qui est le plus amusant. La mère de la femme Jacques Lard a bien demeuré boulevard Saint-Michel, numéro 18, dans un appartement meublé loué par le nommé Kaisalevski ou Korvalovski, âgé de 68 ans, général russe, et qu'elle a occupé du 22 juillet au 5 octobre, de concert avec cette personne, sa femme, le nommé Kovalevski, la femme de celui-ci, et le général russe Korvin Krukovskoy, son mari. Ces personnes partirent ensemble de cette maison après avoir eu un entretien avec un inconnu qui était venu les voir. Le nommé Kaislevski, tiens, il y a un X tout d'un coup, Levski ou Korvalovski, déclara au propriétaire qu'il regrettait de ne pas l'avoir prévenu 8 jours à l'avance, mais qu'un cas imprévu et de force majeure l'obligeait à ne pas différer son retard. Il prétendit qu'il se rendait en Russie. Les bagages des voyageurs furent enlevés par une voiture des chemins de fer. La compagnie à laquelle elle appartenait est restée inconnue. Un individu disant se nommer Krovolevski, demeuré boulevard Saint-Michel numéro 18 et d'être le beau-frère de Jacquelart, s'est présenté à diverses reprises rue Biot, numéro 16, c'est l'adresse de Jacquelart, à l'effet de réclamer les effets et les objets qui avaient été saisis au commissariat de police. C'est nos objets saisis, là. Cet individu, qui s'appellerait plutôt Korvalovski, serait peut-être le fils du général russe dont j'ai parlé plus haut et qui porte ce nom. Bon, bref, le pauvre policier n'a rien compris, surtout avec tous ces noms russes, d'où on déduit que Sofia, son mari et ses parents ont habité 18 boulevard Saint-Michel, à partir du 22 juillet. Que Vladimir a essayé de récupérer les papiers d'Anna et Victor Jacquelart au 16 Rubio, nos papiers que nous on aime tant, là. En fait, je ne vous ai pas tout montré, mais il y a un papier que Jean-Pierre a utilisé aussi dans cette série-là, donc voilà. Et que toute la famille est partie subitement après la visite d'un inconnu le 5 octobre. La police n'avait pas très bien compris comment Jacquelart s'était évadé. La police n'avait pas très bien compris ce qui se passait. Évidemment, nous, on a très bien compris que le gars, il est venu rapporter le passeport et que dès qu'ils ont eu le passeport, eh ben, ils sont partis, quoi. Voilà. Bon, donc ça, c'était la note comique des archives de la préfecture de police. Bon, je vous assure que si vous aviez été là en train de lire ce papier, ça vous aurait fait rire aussi. Voilà. Donc, je remercie la police parce que... Ils peuvent même nous faire rire. Voilà. Alors, en fait, elle est revenue à Paris assez souvent, en 1882, dans le milieu des révolutionnaires russes et polonais. Elle est venue en 1886. Elle a assisté à une séance d'Académie des sciences. Et en 1888, elle a reçu un prix de la même Académie des sciences, ce dont j'ai parlé cet après-midi à l'université. Mais on a aussi parlé d'elle à Paris en 84, lorsqu'elle a obtenu un poste à l'université de Stockholm. Donc on est quand même avec André Léo. Donc je vais vous montrer deux lettres d'André Léo à son fils. Donc comme vous savez, les lettres d'André Léo sont dans le fond des caves à l'Institut d'Histoire Sociale d'Amsterdam. Donc, c'est une lettre à son fils André, le 15 janvier 1884, et elle dit « Parle-moi de nos amis, ne fais-tu pas une visite... » C'est en 84, hein. « Ne fais-tu pas une visite au Jacquelart ? Demande-leur de ma part l'adresse de Monsieur de Vollmar. » Donc, Vollmar, c'était un social-démocrate allemand qui était un ami à la fois de Sofia Kovalevskaya et d'André Léo. « Prends-la en écrit, envoie-la moi. Demande aussi de ma part de leurs nouvelles et de celles de Madame Kovalevska. » Donc elle n'avait pas trop compris comment on faisait les féminins en russe, mais bon, c'est pas grave. Donc elle demande des nouvelles. Et en fait, c'est un moment où on parle de Sofia à Paris, parce qu'il lui envoie effectivement des nouvelles, et le 11 mars, elle lui écrit pour la remercier. « Je te remercie particulièrement des rappels. » C'est le jour, le quotidien, le rappel, vous savez... dernièrement envoyé, où se trouve un article qui m'a fait plaisir sur mon amie Sophie Kovalevski. Donc en fait, c'est un article, je crois que je l'ai mis après, mais si je ne l'ai pas mis, j'ai eu tort. Oui. Donc le rappel, le 22 février 1884, avait publié une causerie scientifique d'un journaliste scientifique qui s'appelait Victor Meunier, et qui écrivait des articles... grand public, il expliquait qu'à l'Académie des sciences, le mathématicien Charles Lhermitte avait présenté une note de Madame Sophie Kovalevski. Donc c'était dans l'actualité scientifique du moment. Ça paraissait, c'était quand même un temps béni où il y avait des articles scientifiques dans les quotidiens et où on racontait les articles qu'on racontait qu'on parlait de mathématiques à l'Académie des sciences dans les quotidiens. Voilà. Voilà, et puis j'ai fini, je crois. Voilà, donc les photos sont mieux que tout à l'heure. Donc voilà, Sofia Kovalevskaya Et André Léo, je crois que c'est vraiment la fin, ou alors il y a un autre truc après. Non, c'était vraiment la fin. Voilà. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous raconter sur les trois visites de Sofia Kobylevskaïa à Paris en 1871.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut en savoir plus, parce que Michel Audin en sait plus, sur la commune ou sur Sofia Kobylevskaïa, ou si quelqu'un a, ou si quelqu'un a quelque chose à apprendre à Michel Audin sur André Léo.
Bon, alors là, il faut que vous posiez des questions, parce que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que la conférence était mauvaise. Donc, si je m'en vais vexer si vous ne posez pas de questions. Bon, ben, je m'en allais vexer.
Oui, c'est vous, vous avez dit à Paris, c'était la fête après que les Prussiens aient envahi Paris. Vous avez dit ça un moment. Il faudrait que c'était à Paris que fallait être.
Paris est un paradis. Ouais.
Et attendez, mais vous avez envoyé des communards de Bagne.
C'était la fête à Paris entre le 18 mars et le mois de mai. C'était la fête à Paris tout le temps. On vient de passer 20 ans du pire régime policier qu'on ait vécu en France, qui est le Second Empire. On vient de passer les quelques mois de l'hiver le plus horrible de tout le siècle, où la Seine a gelé pendant 3 semaines, où il n'y avait rien à manger parce que la ville était assiégée. On vient d'être traité, méprisé par un gouvernement bourgeois qui est vraiment une bande de crapules, j'ai déjà dit, mais je le répète. Jules Favre de tout à l'heure en fait partie. Et puis voilà, maintenant on fait la fête parce que d'abord c'est le printemps, il fait beau, on a pris le pouvoir et on n'est plus traité comme des moins que rien. Et c'était la fête en effet. Bon, après comment cette fête s'est terminée, c'est une autre histoire, mais c'était la fête à Paris. Mais vous pouvez regarder la correspondance des gens, regarder la correspondance de Gustave Courbet. Il écrit à Paris au mois de mai. Paris est un vrai. Il écrit à ses parents. Paris est un vrai paradis. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a plus de sergents de ville dans Paris. Ils sont tous partis à Versailles. Donc c'est maintenant. Il y en a marre de la police. On est bien. C'est la fête. Oui. C'était effectivement la fête à Paris. Et si vous voulez des détails sur cette fête, je vous conseille fortement la lecture de ce livre qui s'appelle Comme une rivière bleue et qui raconte effectivement comment c'était la fête à Paris pendant la Commune, au début de la Commune. Non. Parce que après le plus horrible hiver du siècle, on a eu aussi le plus beau printemps du siècle.
Oui. Attendez, je vais venir avec lui. Oui, j'ai essayé de suivre un peu le itinéraire intellectuel de cette dame et je m'interrogeais sur les langues qu'elle pratiquait et notamment avec son passage de Paris en Allemagne, d'Allemagne ensuite à Stockholm, enfin de Paris à Stockholm, etc.
Voilà, elle vient d'une famille d'aristocratie russe, donc par définition elle parle français et russe. Sa meilleure langue écrite est le français, je pense. Elle a aussi une gouvernante anglaise, donc je pense qu'elle parle anglais. Mais par contre, je n'ai jamais rien vu d'elle écrit en anglais. Elle va faire des études en Allemagne, donc elle apprend l'allemand. Alors apparemment, elle parlait très bien allemand, de façon très fluide, mais de façon pas du tout, idiomatique, quoi. Donc, elle employait des tournures qui faisaient rigoler tout le monde. Donc, tout le monde comprenait, mais ça faisait rigoler tout le monde parce que les Allemands ne parlaient pas comme ça. Bon. J'ai fait traduire une lettre, justement, par un de mes collègues un jour, et un de mes collègues allemands, et en effet, il avait la même réaction, ça le faisait rigoler. Bon, donc elle parlait français, russe, allemand. Et puis, quand elle est partie à Stockholm, elle a fait des cours à l'université, donc au début elle a donné le choix à ses auditeurs entre le français et l'allemand. Ils ont choisi l'allemand, mais elle a commencé à apprendre le suédois tout de suite et elle a fait donner ses cours en suédois après. Mais pour les visites à Paris, il n'y a pas de problème. Le français était sa meilleure langue. Peut-être qu'elle parlait mieux russe, je ne sais pas, mais elle parle très bien français. Elle écrivait très bien, le français.
On enregistre, donc merci d'utiliser le micro.
Non, non, c'était juste une question par rapport au lendemain du mariage ou même de la préparation du mariage, parce que comme c'est donc Benoît Malon qui célèbre la cérémonie, voilà, c'est Claude Latta qui est peut-être encore le meilleur spécialiste de Benoît Malon. Est-ce qu'après ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont échangé? Est-ce qu'il y a eu une correspondance entre
Benoît Malon et André Léo étaient des amis d'Anna et Victor Jacquelart. Ça, donc ça, ils se voyaient. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils étaient en Suisse, ils se sont vus en Suisse aussi. D'ailleurs, quand elle parle dans les lettres à son fils de 84 que j'ai citées, qui m'ont d'ailleurs été communiquées par Jean-Pierre, qui est là, bien sûr. Elle dit mes amis, je ne suis pas sûre qu'elle ait eu le temps d'être si amie avec eux en 71. Je pense qu'elle a été... Après la commune, donc Anna et Victor, ils se sont réfugiés en Suisse, de même que André Léo et Benoît Malon. Et Sophia, qui était à Berlin, elle est allée souvent voir sa sœur en Suisse. Donc c'est probablement à ce moment-là qu'ils sont devenus vraiment amis. J'en suis pas certaine, mais c'est possible que ça soit à ce moment-là. Donc oui, il y avait des relations entre ces gens-là. Par contre, j'ai pas vu de correspondance entre le cher Benoît et les Kowalewski.
On ne sait pas non plus, par exemple, ce que pouvait penser Sophia des travaux un petit peu postérieurs du bilan de la commune de Paris, parce que quand Benoît Malon écrit la troisième défaite du prolétariat, bon, c'est un bilan qui est assez... on peut en faire plusieurs lectures. Et du coup, est-ce qu'on sait un petit peu, au niveau de la réception, ce que pouvait en penser éventuellement donc Sophia?
Après, vous voulez dire au pendant?
Et éventuellement pendant, si jamais
alors,
il y a des
bon,
échanges,
pendant, après... pendant, y a une partie de ce qu'elle a dit à Anne-Charlotte que j'ai pas citée parce que c'était des choses d'Anne-Charlotte qui étaient raisonnables. Donc, elle dit qu'elle a travaillé dans une ambulance et qu'elle était là, que dans cette ambulance, elle a retrouvé d'autres jeunes filles qu'elle avait connues à Saint-Pétersbourg. Donc, on pense peut-être Elisabeth Dmitrieff, mais c'est pas sûr. Mais il y avait pas mal de jeunes femmes russes à Paris à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, là, et puis, ils ont dit tous les deux qu'ils avaient été très heureux pendant cette période-là. D'ailleurs, ils sont partis le 12 mai. Et ils croyaient que c'était encore la fête. Je sais pas si c'était encore la fête, mais ils avaient l'impression que tout était bien, qu'ils pouvaient partir tranquille. Hein. C'était quand même 9 jours avant le début de la semaine sanglante. Alors pour après, j'ai rien vu qu'elle ait écrit ou qu'elle ait dit après la commune. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a dit de nombreuses fois qu'elle était malheureuse de ne pas avoir le temps d'être plus active politiquement. Par exemple, elle écrit à Weimar, là, qui est justement le social-démocrate allemand dont parle André Léo dans la lettre à son fils. Elle écrit à Weimar, qui est un très cher ami à elle, et elle lui explique à quel point elle est malheureuse de ne rien pouvoir faire. Lui, il est député social-démocrate, bon, on en pense qu'on en veut, mais elle est malheureuse de ne pas pouvoir militer plus, quoi. Donc mais c'est tout ce que je peux répondre, je ne sais pas plus.
Vous avez répondu à la question que je voulais poser sur les relations après la commune entre Sophie Kowalewski et André Léo. Est-ce qu'il y a eu une correspondance entre Sophie Kowalewski, enfin il y en a certainement une entre Sophie Kowalewski et André Léo?
Le fait qu'elle demande à son fils de lui envoyer des trucs, ça laisse plutôt penser le contraire. Mais en fait, j'en sais rien. Je veux dire, je sais pas parce que j'ai rien vu. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas vues. Vous savez, les manuscrits d'André Léo, des trucs comme ça.
Oui, concernant ces travaux mathématiques, est-ce qu'ils ont été publiés sans rentrer dans les détails?
Oui, alors, quand elle a passé sa thèse, il y avait 3 articles dans cette thèse. Je n'ai pas parlé de ça parce que j'en ai parlé cet après-midi dans une autre conférence, hein, mais je vais quand même dire 2 mots. Il y avait 3 articles dans sa thèse, dont chacun aurait fait pour un homme une thèse normale, quoi, mais donc dont un qui était un très joli travail de mathématiques appliquées sur la forme des anneaux de Saturne, qui a été publié, un qui est un théorème fondamental et indispensable des mathématiques, qui est ce qu'on appelle le théorème de Kochi-Kovalevskaya, qui est un théorème sur, je vais quand même dire les mots, hein, existence et unicité des solutions d'un système d'équations aux dérivées partielles. Bon. Et puis surtout le travail pour lequel elle a eu un prix de l'Académie des sciences, qui était un travail complètement remarquable sur l'étude du mouvement d'un solide avec un solide de forme biscornue fixé par un point dans un champ de pesanteur constant, où elle a fait vraiment avancer la question de façon tout à fait décisive. Ça suffit comme réponse ou vous voulez plus de détails? Donc oui, elle a beaucoup d'articles publiés. Et en particulier, il y a l'article dont Charles Lhermitte parlait, là, dans le journal Le Rappel. Oui, celui-là, là. C'est juste celui-là. Cet article-là aussi, qui était encore un travail différent. Donc oui, il y a beaucoup de travaux publiés. Ça c'est pas... elle était... peut-être vous en avez jamais entendu parler comme mathématicienne avant, mais il y a plusieurs raisons. Notamment que les mathématiques, ce qu'elle a fait, ce qui porte son nom et ce qu'elle a fait, c'est des choses qu'on ne peut pas enseigner avant la 3e ou 4e année d'université. Donc, ce n'est pas des choses dont on peut parler comme ça. Et puis, aussi, elle était, il faut que je dise qu'elle était extrêmement bien reconnue scientifiquement de son vivant dans la communauté mathématique de son temps. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci.
Des commentaires. Annie. Je suppose qu'elle n'a pas eu le temps de s'investir en dehors de son activité dans l'ambulance là, sur l'éducation et en particulier l'éducation des filles, puisque tu disais tout à l'heure que c'était une préoccupation essentielle des nihilistes, mais c'est aussi une préoccupation d'André Léo à ce moment-là. Donc est-ce qu'elle a eu l'occasion de travailler dans ce sens et dans ce domaine ?
Pas que je sache. Quand j'ai parlé des préoccupations des nihilistes, je pensais aussi beaucoup au fait que ces filles voulaient elles-mêmes, les nihilistes et les jeunes femmes elles-mêmes, elles voulaient aller étudier à l'étranger, que ces garçons les aidaient, en particulier les épousant. Pour ça, je pensais à cette chose-là aussi. Mais là, tu as parfaitement raison. C'est une remarque tout à fait intéressante. Je ne pense pas qu'elle ait fait grand-chose, mais par contre, Anna, vous savez que le jour où les Versaillais sont entrés dans Paris, c'est-à-dire le 21 mai, le dimanche 21 mai 1871, il y avait eu le matin un déjeuner chez Édouard Vaillant, qui était le délégué à l'éducation, à l'enseignement de la commune, et il avait invité plusieurs femmes, dont André Léo et dont Anna Jacquelart, pour parler de l'éducation des jeunes filles, des filles en l'occurrence, et pour mettre en place une commission qui s'occupe des écoles de filles. Bon, donc elles ont eu le temps de rien faire du tout, mais André Léo et Anna Jacquelart faisaient partie de cette chose-là. Mais Sophia, elle était partie, elle. Donc, et puis elle était quand même très jeune. Hein, je ne peux pas dire plus. Oui ?
C'est vraiment une curiosité. Est-ce que cette expérience politique de la commune, ça laisse des traces dans sa vie, notamment en Suède ? Est-ce que dans les milieux sociaux-démocrates, elle les fréquente ? Enfin, est-ce qu'elle participe à des sociétés, etc.
Oui, alors elle avait des tas d'amis sociodémocrates partout dans le monde, y compris à Stockholm. Et d'ailleurs, ça fait partie des difficultés de la biographie d'Anne-Charlotte Leffler. Donc il faut comprendre que Anne-Charlotte Leffler, c'est une bourgeoise suédoise. une grande bourgeoise suédoise. Socialement, elle est comme ça, puis aussi financièrement. Hein, donc et puis elle a la bourgeoisie de Stockholm en ce temps-là, je sais pas maintenant, mais en ce temps-là avait quand même des idées assez précises, des choses qui se faisaient, et des choses qui se faisaient pas. Et elle a beaucoup reproché à Sophie de vivre comme une bohème, d'avoir des meubles qui étaient pas beaux, qui étaient abîmés, etc. de pas vivre une vie bourgeoise comme ça, et en particulier chaque fois qu'elle rencontrait un ami social-démocrate, que ce soit un Suédois ou alors dès qu'il y avait un social-démocrate quelconque d'un pays quelconque d'Europe qui venait à Stockholm, il venait la voir, enfin elle le rencontrait, bon sa vie sociale était comme ça, ça faisait ricaner et jaser ce qu'elle appelait le poulailler de Stockholm. Donc oui, elle avait des connexions avec pas mal de gens, et en particulier à la fin de sa vie, elle avait donc son mari était mort, et elle avait rencontré un homme dont elle était amoureuse et qui était amoureux d'elle, et qui s'appelait aussi Kovalevski. C'était un cousin de son mari, un lointain cousin de son mari, Maxime Kovalevski, qui était un sociologue assez célèbre et qui avait été viré des universités russes parce que justement il était trop sociologue socialiste, et qui était en grande correspondance, par exemple, avec Marx et Engels, parce qu'il faisait des travaux du style le livre de Friedrich Engels qui s'appelle L'origine de la propriété, d'un famille de la propriété privée et l'État. Il faisait des travaux de ce genre-là. Il avait été vraiment viré des universités russes à cause de ça. Et c'était l'homme qu'elle allait épouser quand elle est morte. Ça, j'ai répondu à peu près.
Oui. Qu'est devenue la fille de Sophie Kovalevski?
Alors, donc, d'abord, qu'est-ce qu'elle est devenue au début? Alors, au début, quand Sophia, elle est née en 78, je crois. Et quand Sophia est partie à Stockholm, c'était pas complètement évident ce qu'elle devait faire avec sa fille. Bon, donc y a pas mal de gens qui se sont occupés d'elle, donc des amis de Sophia en Russie, et puis le frère de Vladimir aussi, qui était un médecin, je crois. Voilà. Et puis bon, finalement, elle a fait revenir avec elle. Quand elle est morte, elle était avec sa fille vivait avec elle à Stockholm. Donc elle vivait avec sa fille à Stockholm. Et qu'est-ce qu'elle est devenue après? Après, quand sa mère est morte, elle est repartie. Donc elle est née en 78. Donc quand sa mère est morte, elle était quand même encore petite. Elle est 13 ans, c'est ça. Donc elle est partie en Russie chez une des amies chimistes de Sofia Kovalevskaya, qui l'a adoptée. Elle a vécu avec elle. Et je crois qu'elle est devenue médecin. Elle a vécu en Union soviétique jusque dans les années 1950. Je ne sais plus exactement, mais je crois 52 ou 54. Et elle a... Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans le livre là, que j'ai montré, sur la nouvelle édition là, des souvenirs d'enfance, on a publié des chapitres inédits en français de ce livre. Ces chapitres inédits, il y en avait qui étaient écrits en russe, et il y en avait qui étaient écrits en suédois. Et il y en avait qui étaient écrits, parce que Sophia avait écrit des brouillons en russe et en suédois, on ne savait pas trop. Et il y en avait dont la version russe avait été traduite du suédois par la fille. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Comment ?
Pas mariée et sans descendance.
Oui, sans descendance. Sans descendance. Oui, pardon, j'aurais dû le dire, bien sûr. Sans descendance. Donc, il n'y a pas de...
Je ne sais pas si c'est une parenthèse ou... Enfin, c'est d'un autre ordre, ma question, parce que je m'adresse à l'historienne contemporaine, à la mathématicienne contemporaine qui a eu une carrière académique réussie, qui est notamment à l'Université de Strasbourg. Mais en fait, ma question, et donc je parle de toi, et au présent, Et donc, tu es un peu capable de faire une comparaison, parce que j'étais frappé par ce que tu avais dit tout à l'heure et que je résume rapidement, c'est qu'en fait, elle a fait à peu près exactement, Sofia Kovalevskaya a eu exactement le type d'activité qu'un enseignant académique, enfin un mathématicien académique.
J'ai pas dit ça en public ici.
Non, mais justement, je le rappelle. Okay. Et ce qui m'intéresserait là, bon, c'est un peu quitter le domaine de l'histoire, mais voilà. Et en même temps, on sait très bien qu'aujourd'hui, et donc quand tu disais l'activité normale d'un chercheur en mathématiques académique normal. On sait très bien qu'il y a un problème encore à l'accès des femmes aux hautes mathématiques, à l'enseignement, au niveau, à la direction, etc. Quand on regarde simplement les statistiques, on est loin du sexe ratio de l'espèce humaine. Donc, où est-ce qu'on en est ? Comment ça reste un problème ? Pourquoi ? Est-ce que toi-même, tu as pu rencontrer des difficultés parce que tu étais une femme ? Ou comment tu vois la situation dans l'université française ? Et qu'est-ce qu'il va falloir actionner comme différents moyens institutionnels et autres, à ton point de vue ?
On y va. Hein,
deux mots, naturellement.
Non, mais on a dit qu'on peut rester jusqu'à 10h30, non ? Donc, il n'y a pas de problème. Donc... Bon, alors d'abord, je vais préciser le truc implicite que tu as dit au début, parce que je l'ai dit plusieurs fois dans la journée, mais zéro fois dans cette salle, alors je vais le dire. Sofia Kovalevskaya, elle a eu, je sais pas, c'est pas la première femme qui a un doctorat en mathématiques, c'est pas la première femme qui enseigne dans une université, c'est la première femme qui rien du tout, sauf que elle a mené une vie qui était, si je fais la liste des choses qu'elle faisait dans sa vie, elle faisait la même chose qu'on fait nous dans les universités maintenant, c'est-à-dire elle demande des théorèmes, elle écrit des articles, elle donne des cours, elle va à des réunions de conseil et ça l'ennuie. Elle est dans un comité de rédaction d'une revue scientifique, elle voyage, elle va à des congrès, elle discute avec des collègues, elle envoie des lettres de recommandation quand quelqu'un est candidat à un poste et tout, elle fait... Nominalement, exactement la même chose, les mêmes choses qu'on fait nous-mêmes. Donc, elle arrive à un moment où les mathématiciens qui avaient autrefois des mécènes sont devenus des professionnels en devenant des universitaires, et elle est la première à mener cette vie-là comme universitaire. Et dans ce sens-là, elle fait la même chose qu'on fait nous, que je fais moi. D'ailleurs, j'ai une fille aussi. j'ai pas fait de mariage blanc. Bon, voilà. Donc, évidemment, c'est dans des conditions tout à fait différentes, parce que pour nous, pour moi, ça a été beaucoup plus facile, et pour nous, les hommes pour les hommes et pour les femmes, ça a été beaucoup plus facile que ça l'a été pour elles. Après, tu poses une autre question sur le sexe ratio, là, sur les femmes à l'université, qui est quand même une très vaste question. Parce que, moi j'ai 63 ans, j'avais 20 ans en 1974. J'ai vu dans les années, quand j'avais 20 ans, j'ai vu que les choses allaient s'améliorer. Quand il y avait de plus en plus de femmes qui faisaient ci, qui faisaient ça, c'était vraiment très très bien. Et en fait, il y en a beaucoup moins maintenant. Je veux dire, beaucoup moins qu'avant que j'ai 20 ans. Donc, des mathématiciennes, il n'y en a plus. Il y en a de moins en moins. Sérieusement, je suis sérieuse. Des gens qui font des femmes, qui font des mathématiques pures et qui font une carrière à l'université, il y en a de moins en moins. Qu'est-ce que je dois dire ? Je dois ajouter que dans les années 70, il y avait un grand mouvement militant, que le mot féministe n'était pas une injure. Je dois ajouter ça pour qu'on comprenne ce qui se passe. Moi, on ne peut pas penser que tout ça est un long fleuve tranquille et que les choses vont lentement s'améliorer petit à petit. Si on ne fait rien, ça ne s'améliore pas. Si on n'enfonce pas les portes entrouvertes, elles se referment. Voilà, j'ai répondu à ta question ? Ou pas ? J'ai répondu ou...
Oui, alors, la première partie, et c'est en proportion, en absolu, parce qu'en gros, on sait que les effectifs en sciences, ils ont tendance à être assez critiques, tendance à la baisse.
Et non, c'est même en proportion.
En proportion,
oui. Si tu regardes combien il y a de jeunes filles dans les classes préparatoires scientifiques, combien il y a de jeunes filles dans les grandes écoles. Par exemple, cette année, il y a zéro mathématicienne qui est entrée à l'école normale supérieure. Bon, les années précédentes, il y en avait infiniment plus, il y en avait une ou deux. Hein.
D'accord. Et effectivement, entre 0 et 1, c'est l'infini.
Exactement.
Ce n'est pas le double. Deux fois d'ailleurs, c'est 0. Il faut faire attention. Hein. Donc,
Attends, je suis mathématicien.
Ma question, excusez-moi, je tiens le micro, il faut me l'enlever. Parce que ma question, c'est, il y avait un complément. C'est, qu'est-ce qui, alors bon, un mouvement féministe, d'accord. Mais quel genre de... est-ce que c'est une histoire de représentation? Est-ce que c'est une histoire de... que les mathématiciens font bien attention qu'il n'y ait pas de mathématicienne qui se pointe? Ou est-ce que... c'est un peu difficile de voir.
C'est vachement difficile,
joue,
la vie des... C'est
on n'a jamais tant parlé de promouvoir la science chez les femmes. Et voilà, donc, comment on fait passer les choses? Parce que les règlements, les lois, on se sent plutôt améliorés et ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour les salaires.
Alors, ça serait bien d'avoir, un moyen d'expliquer à des gamines qui sont élèves dans des collèges ou dans des lycées qu'il y a des carrières scientifiques qui sont possibles pour elles. Alors, comment tu veux faire ça? Alors, ça serait bien de leur montrer que c'est possible, donc leur montrer des champs. Alors, voilà. Comment dire? Par exemple, Sofia Kovalevskaya, quand elle était... Sofia Kovalevskaya, que je trouve un très chouette modèle, en fait, parce que c'est une femme vive, active, c'est une femme normale, elle a une vie sentimentale, elle fait des tas de choses, et voilà, et puis elle fait des maths, et elle est contente quand elle fait des maths, et tout ça. Donc ça serait bien de montrer des jeunes filles que regardez comme elle était bien celle-là. Sauf que quand elle était vivante et qu'elle faisait des mathématiques, elle était très bien intégrée dans son milieu, elle avait une très bonne réputation, etc. Puis après, on l'a oubliée. Personne ne la connaît. Mais elle n'est pas la seule. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples de mathématiciennes, hein, mais je vais vous donner des exemples, par exemple, dans la musique. Si vous regardez au cours du 19e siècle, il y a des tas de femmes, mais il y a plusieurs femmes qui se mettent à faire de la musique, puis elles sont professeurs au conservatoire, puis elles donnent des cours de piano, et puis elles sont reconnues, puis on dit à Pauline Viardot, c'est vachement bien, et puis on dit, etc. Donc il y a des noms comme ça. Et puis aujourd'hui, on redécouvre que ces femmes ont existé, parce que quand elles étaient là, on en parlait, mais dès qu'elles sont mortes, on n'en parle plus, elles disparaissent. Il y a une sorte de négation, les femmes disparaissent. Les mathématiciennes, c'est pareil. Voilà, donc c'est très très difficile d'avoir des modèles, c'est très très difficile d'avoir des exemples, et après c'est un truc dont on peut parler encore pendant plusieurs heures, donc je sais pas si... De toute façon, si j'avais su comment changer les choses, j'aurais fait. Hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas les historiens qui oublient. Ah non, pas du tout. C'est pas. Non. Si on parle plus de telle ou telle personne, c'est pas parce que les historiens n'en parlent pas. C'est parce que le milieu musical ou le milieu mathématique lui-même n'en parle pas. Là, par exemple. Pour prendre l'exemple de Sofia Kovalevskaya, qui est un exemple que je connais bien et que j'ai étudié de très très près, elle était très très bien, j'ai déjà dit, intégrée dans le milieu. Hein, et dès qu'elle meurt, on commence à lui faire une réputation déplorable. Donc les mathématiciens de maintenant, je ne sais pas, aujourd'hui ceux qui sont dans la salle, sûrement ils m'ont entendu déjà en parler, donc c'est différent, mais les mathématiciens de, disons, il y a 10 ans, ils n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les qualités mathématiques et puis les résultats mathématiques de Sofia Kovalevskaya. On l'oublie. La réputation déplorable, évidemment que c'est son directeur de thèse qui avait tout fait, qu'elle avait couché avec lui, etc.
Ah non, mais c'est pas, on ne fait pas dans la dentelle. Hein. Alors Marie Curie, c'est un petit peu différent. Moi, c'est un petit peu différent. Moi, j'en veux un peu à Marie Curie parce que Marie Curie, elle a eu un moment. Si vous regardez les photos de Marie Curie quand elle était jeune, elle a eu un moment où elle était une jeune chercheuse dynamique, joyeuse, etc., etc. Et puis après, quand elle a eu tous ces problèmes, c'est-à-dire que son mari est mort d'une part et d'autre part qu'il y a eu cette campagne contre elle, quand par hasard elle est tombée amoureuse d'un autre homme, elle a décidé de se transformer en une comment dire, une vierge austère, quoi. Et donc, je sais pas, moi, j'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai essayé de travailler à un moment donné avec une très, très belle photo de Marie Curie dans mon bureau, mais je pouvais pas travailler avec ça, parce qu'elle me regardait avec son air sévère, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y, travaille. Bon, c'est pas un exemple quelque chose qu'on veut donner en modèle à des jeunes enfants. Mais bon, Marie Curie, elle a quand même une bonne réputation scientifique, hein. Non, Marie Curie, elle a quand même une bonne réputation scientifique. Faut pas exagérer. D'ailleurs, on parle que d'elle. Ouais. C'est presque l'inverse, en fait.
Remarque concernant les mathématiciennes, il y a celles qui ont obtenu une médaille Fields se comptent sur les doigts d'une main.
Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire qu'on n'en a pas donné.
Bien sûr.
Sur les doigts d'une main, sur un doigt d'une main, vous voulez dire. Sur un doigt d'une main.
Mais dans un autre domaine, Sofia Kowalskaya aurait donc connu Dostoïevski.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette connaissance?
Ah voilà, alors ça je peux vous raconter, c'est une très jolie histoire. Ah, oui, bien sûr. Alors là, c'est une très très jolie histoire. Donc elle raconte, elle a 13 ans et... Bon, sa sœur a 6 ans de plus, et puis elle a écrit des nouvelles qu'elle a envoyées au journal de Dostoïevski, et Dostoïevski publie les nouvelles de sa sœur. Donc ça fait un grand scandale familial, parce qu'il lui envoie de l'argent pour payer les nouvelles, et maintenant le père dit, maintenant tu fais payer des nouvelles, après tu le feras payer ton corps, etc. Enfin bon, toute une histoire, ça se fait pas, quoi. Mais bon, en tout cas... Le père, en fait, il était assez sympa, parce qu'il râlait tout le temps, puis après, il faisait toujours ce qu'elle voulait. Et donc, il dit, bon, allez, vous avez le droit de faire la connaissance de Dostoïevski, ça va. Donc, Dostoïevski est invité à la maison. Et évidemment, Sofia, qui a 13 ans, tombe amoureuse folle de lui. Et un jour, il vient à la maison, et c'est elle qui raconte, c'est dans les souvenirs d'enfance. Hein. Il vient à la maison, et un jour, il avait dit qu'il aimait beaucoup la sonate pathétique de Beethoven. Donc, cette demoiselle, qui, en plus de parler toutes ses langues, jouer du piano, bien sûr, elle se dit, je vais lui jouer ça, puisque c'est ça qu'il aime. Donc, elle se met à travailler très, très fort, la sonate pathétique, qui n'est pas la sonate la plus difficile de Beethoven, mais c'est pas complètement innocent quand même. Et donc, il arrive, et puis il est dans une pièce avec Anna, je crois, et puis elle joue du piano, et puis elle lui joue la sonate pathétique, et elle se dit, là, il va tomber amoureux de moi, etc. Et puis quand elle a terminé, elle se lève, elle n'entend plus de bruit, elle se lève, et qu'est-ce qu'elle voit? Et ben, en fait, il était en train de demander sa sœur en mariage. Voilà, donc elle raconte ça comme ça, elle le raconte de façon très, bien sûr beaucoup plus jolie que ce que je viens de dire, mais c'est... Et donc, bon, ils ont toujours... Donc Anna n'était pas folle, elle a refusé, bien sûr, mais il a trouvé quelqu'un d'autre à les martyriser. Il y a pas de... mais ils sont restés très amis, et en particulier quand elle a eu passé sa thèse en 1874, donc bien après, elle est revenue en Russie, où elle cherchait du travail, qu'elle n'a pas trouvé. Et là, elles ont eu toutes les deux, les deux sœurs, beaucoup de relations avec Dostoïevski. Et d'ailleurs, dans ce livre, dans les chapitres inédits, il y a un chapitre, inédit en français, je veux dire, hein, il y a un chapitre qui est un chapitre supplémentaire où elle raconte des choses que Dostoïevski lui a racontées après. Voilà, donc oui, elle a eu des relations. Mais Anna, elle est... dans toutes les biographies de Dostoïevski, elle est là. Et puis on dit qu'il l'a demandé en mariage. Ça, y a pas... Voilà, c'était une histoire pathétique, celle de la sonate. Elle avait 19 ans, je pense. Mais elle était déjà assez raisonnable pour comprendre que... valait mieux chercher ailleurs. Remarque, Victor Jacquelart, je ne suis pas sûre que c'est un bon coup aussi. Mais bon...
Est-ce qu'il y a des informations sur la pianiste Sofia
Non. Il y a des petits. Oui, elle jouait ça. Bon, les jeunes filles apprenaient à jouer du piano en ce temps-là. Par contre, il y a un truc rigolo. Il y a sa maman qui dit. Elle dit à. Elle-même, elle joue du piano, la mère, bien sûr. Et elle dit à Anna, la sœur aînée, quoi. Mais pourquoi t'écris ? Pourquoi tu veux absolument écrire et envoyer ces nouvelles à Dostoïevski ? Fais autre chose, je sais pas. Fais de la peinture, fais quelque chose. Et elle explique. Moi, quand j'étais petite, j'avais vachement envie de faire du... Enfin, elle dit pas vachement, bien sûr. J'avais très envie de jouer du violon, mais ma mère a pas voulu. Et mon père trouvait que c'était disgracieux pour une fille. Alors j'ai joué du piano, puis ça va bien. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à jouer du piano dans ces milieux-là. Donc je pense pas que... Je ne pense pas qu'elle ait joué plus tard du piano. Ah non, c'était une passion pour Dostoïevski. Je vais lui jouer la pathétique, et puis point. Je ne pense pas qu'elle soit allée jusqu'à apprendre la dernière sonate de Beethoven, par exemple.
Je ne sais pas si plus une dernière question, des remarques, autrement, mais... Merci encore Madame Aubin, et puis je vous invite à regarder les livres qui vous sont donc proposés à la sortie de la salle et donc éventuellement faire des dédicaces. Voilà, à bientôt, bonne fin de soirée.
Merci.